Revue terrestre, février 2020, discussion avec Isabelle Stengers, réactiver le sens commun, lecture de Whitehead en temps de débâcle.
Que j'ai fabriqué insiste pour être de la partie, donc c'est très difficile à triguer. Donc, c'est seulement en l'écrivant que j'ai compris ce que j'étais en train de faire, par exemple, et je n'ai pas, j'ai eu du, comment dirais-je, une certaine paresse à croire que ça pouvait s'élaborer au fil des pages. Comme Bruno Latour m'a dit, je l'ai réécrit dans le livre, c'est... Ceux qui t'ont dit que ça allait sont des amis trop indulgents. Et oui, on ne peut pas. Enfin, il y a une espèce de connivence sur laquelle, sans même me rendre compte, je comptais. Et là, je me suis dit, non, il faut le reprendre en main, il souffre ce livre. Enfin, il y a des thèmes qui sont introduits trop tôt, qui ne sont pas pris dans l'ensemble du livre. Enfin, il est mal construit, mal foutu, simplement. J'aimais bien ce qu'il y avait dedans, mais c'était mal foutu, ça arrive. Et je crois que c'est aussi mon style d'écriture, quoi. Il faut un fil qui se tienne. C'est pas des chapitres blocs. C'est des fils qui se soutiennent, et donc à chaque pas, on peut perdre le fil. Je peux perdre le fil. Et là, il y avait des gros nœuds pour les récupérer, etc. Enfin, il m'attristait, donc je le lui devais.
Ça va mieux?
Mais... Oui, ça va mieux maintenant, ça va.
Le titre a changé aussi, c'était...
Ça, c'était une nécessité pour que ce ne soit pas dans les registres des livres parus une réédition. Donc ça devait ressembler à un nouveau livre, ça c'est Philippe Pignard, l'éditeur, qui m'a dit « on va changer le titre ». Ben oui, pourquoi pas. Maintenant d'ailleurs que je savais mieux ce que ce livre m'avait demandé et faisait, je l'espérais à d'autres, ben, un nouveau titre était assez facile à trouver, quoi.
Et tu introduis ce mot de débâcle alors que tu...
Il était dans le livre, hein.
Oui.
Il était dans le livre, mais comme j'avais décidé de beaucoup plus insister sur la situation d'incertitude où nous sommes et que Whitehead me permettait de... Comment dirais-je, de thématiser, parce que lui n'était pas dans l'incertitude. Lui se pensait appartenir à une civilisation en déclin. Mais nous ne savons plus. Nous sommes dans un moment de débâcle. Nous ne pouvons pas savoir si quelque chose continue. Ce sera cette civilisation qui, comme Whitehead l'espérait, aurait trouvé en elle-même les moyens de se régénérer, ou bien si c'est quelque chose d'autre. Et ça ne nous regarde pas, on ne peut pas le savoir. On est dans l'entre-deux, et ce sera à ceux qui viendront de nommer l'avant et l'après. Donc la débâcle, c'est un moment où on ne peut pas savoir. On a d'ailleurs d'autres choses à faire que de savoir. Mais par contre, on peut, et c'est une des choses que j'essaye de faire, trier ce dont, de toute façon, on ne veut plus. Parler de débâcle, c'est nous situer sur un mode qui fabrique le décalage avec ce que j'emprunte à Whitehead. Enfin, donc c'est pour ça, lire Whitehead en temps de débâcle, c'est aussi se dire, ah oui, ça, mais ça, il faut désormais le dire autrement, mais allant vers quoi, ça, je ne sais pas. Et je ne crois pas que ce soit d'un très grand intérêt, sauf pour les censeurs qui disent, mais ça, on ne peut plus dire. Oh. Pas sûr, peut-être qu'on peut le dire autrement. Donc c'est un moment où on peut hésiter sur les mots, mais où la nécessité de discours scolastique sur poste ceci, etc., me semble un peu, parasite.
C'est pas effondrement, tu n'es pas habitué à la catastrophe,
ah non,
barbarie.
L'effondrement, et... pas parce que. La débâcle, c'est un terme double. Je l'entends plutôt au sens de débâcle d'un fleuve gelé, comme le Saint-Laurent, avec tous les crissements, les plaques qui effectivement basculent, c'est-à-dire qu'on ne peut plus... On peut être prêt à beaucoup de surprises, mais quelque part, ça continue, le fleuve continue, et c'est même lui qui active la désarticulation des blocs. Donc, tandis que l'effondrement, c'est, il n'y a pas de sens où quelque chose continuerait, avec toutes les incertitudes de la continuation. Donc, non, de toute façon, les apôtres actuels de l'effondrement m'énervent profondément. Et l'une des choses qui est toujours mis entre parenthèses, c'est qu'on a l'impression que si disons en 2050, on n'a pas pu, qui est long d'ailleurs, on n'a pas pu tenir les engagements solennels, etc., ce sera fini, quoi. Et il y a des gens qui disent, ben oui, c'est déjà trop tard. On n'a pas le droit de dire ça, parce qu'il y aura des humains encore pendant des siècles qui vont continuer à manger à la petite cuillère les conséquences de ce qui a été produit. Donc c'est par rapport à eux, et eux, ben, ils seront toujours là. Ils vont continuer à vivre. On ne sait pas qui ils seront, on ne sait pas quoi, mais pour moi, la tâche, c'est pas de penser l'effondrement comme si tout allait s'arrêter. C'est d'essayer de participer avec plein d'autres à la culture encore balbutiante de ce qui pourrait leur servir ou leur être utile, quoi. Donc, c'est essayer de leur... De fabriquer quelque chose à transmettre qui ne soit pas simplement le récit d'un désastre, mais peut-être quelques moyens de penser ce désastre qui les aide à faire autrement. Non pas qu'ils suivent, mais qu'ils amplifient. Et pour moi, par exemple, mon intérêt pour les communs, c'est effectivement ça. C'est pas la solution. C'est un des fils par où on peut régénérer des choses qui ont été détruites. Donc je suis plutôt du côté de fils de régénération que de annoncer l'effondrement.
Tu parles de canaux de sauvetage, connectés à l'inconnu sans laquelle... Est-ce que les sciences modernes sont modernes essentiellement?
Non, Ben, le canot de sauvetage, c'est un peu ce qu'on doit équiper, et en triant. Est-ce que ça, on jette par-dessus bord, ça, on en aura sans doute besoin. Et donc, tout est objet de tri, de pensée, comment dirais-je, d'évaluation. Les sciences, la philosophie, toutes les pratiques sont mises à l'épreuve de cette perspective-là. Qu'est-ce qu'on emporte ? On va vers un avenir qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qu'on doit continuer à cultiver ? Qu'est-ce qu'on doit transformer ? Qu'est-ce qu'on doit bazarder ? Donc c'est vraiment plutôt des opérations d'évaluation, non pas jugementale, mais très pragmatique, quoi. Il y a des tas de manières de faire science que, personnellement, je plaide pour préserver. Mais avec un rapport au savoir que ces sciences ont hérité d'autres manières de faire science, qu'on pourrait vraiment laisser de côté. Donc, par exemple, quand je parle des sciences, un des problèmes, c'est peut-être qu'elles sont plus intéressantes par la cuisine dont elles ont besoin pour arriver à des résultats intéressants que par ce résultat, comme s'il était sorti du cerveau de la tête de Jupiter, à la manière d'une minerve. Donc peut-être que ça intéressait à leur cuisine, à la manière dont ils font, est beaucoup plus... Et quelque chose qu'il faut réussir à embarquer, dont on a à apprendre. Parce que ça laisse de la place à autre chose. Tandis que si on embarque un bloc de science, tout fait, il n'y a plus de place dans le canot. Hein.
Les dieux sont dans la cuisine.
Les dieux sont dans la cuisine. Donc il faut apprendre à honorer tous ces dieux au sens d'Héraclite. Toutes ces manières de faire qui proposent qui proposent des mondes mais savoir que c'est pas leur pédigré qui compte ni leur grandeur, les petits dieux.
Alors ce livre s'amorce, pour ainsi dire, sur une faute de goût tu as rencontré dans les couloirs de la Commission européenne.
Ah oui,
tout à coup, Socrate est apparu comme une... Et puis, plusieurs Socrates.
Ah oui, oui, bien sûr, mais c'est vrai que ces couloirs qui sont assez sinistres, à l'époque, c'était la partie qui était censée se consacrer aux sciences dans les sociétés, donc, parce qu'on se consacre à tout. La seule différence, c'est qu'il y a des productions de savoir qui ont vocation de monter très haut et d'influencer les politiques et d'autres qui restent à bas bruit. Et là, c'est à bas bruit qu'on s'intéresse aux problèmes sciences et sociétés. Et néanmoins, il y avait des résultats d'eurobaromètres sur des grands, par exemple, qu'est-ce qui est classé par ordre de scientificité. Et on trouvait que pour beaucoup d'Européens, de l'eurobaromètre, l'alchimie ou d'autres pratiques qui feraient l'unanimité contre elle étaient très hauts. Enfin, donc, ça voulait dire, l'eurobaromètre vous dit, ne vous fiez, prenez en compte surtout la stupidité des gens. Ne prenez pas au sérieux l'idée qu'ils pourraient vous apprendre quelque chose. Donc c'était vraiment notre science, notre savoir barométrique confirme la condamnation de l'opinion. L'opinion, elle est plutôt remarquable par ses conneries. Et l'idée que ces gens avaient accepté de suspendre ça et peut-être riaient entre eux à constater la connerie de tel ou tel résultat eurobarométrique, c'était toute la laideur de ce monde qui était là, quoi. Et finalement, en effet, l'idée de penser la fabrique du sens commun contre l'opinion, c'est une des choses qui a motivé ce livre. Surtout qu'il y avait cette phrase de Whitehead avec le sens commun qui tout de même, comme avec Whitehead, avec certaines phrases de Whitehead, on se dit toujours non d'une pipe. Comment la faire proliférer, cette phrase? Mais parce que c'est toujours elliptique chez Whitehead. Tout à coup, il dit, ça lui est venu, ok. Ben, ça a besoin de répercussions. Le sens commun ruminant sur les aspects de l'existence tend cette rumination à la philosophie dans l'espoir qu'elle pourra créer une certaine cohérence. Ça donne beaucoup à la philosophie, mais c'est surtout, attention, ces aspects de l'existence sont désaccordés, et c'est la rumination, c'est comment on peut dire ça et ça, ou évaluer ça et ça positivement en même temps. La question n'est pas de créer d'aller au-delà, mais de fabriquer de la cohérence. C'est ça qu'il demandait à la philosophie. Bon, ben je trouve que c'est une manière de concevoir la tâche de la philosophie qui m'intéresse. Mais, et parce que justement, elle met l'accent sur la dimension radicalement incohérente des impératifs qui nous font penser. C'est ça qui avait d'ailleurs fait de Whitehead un philosophe. C'est comment est-ce qu'on peut vivre dans une civilisation qui tout à la fois s'enorgueillit d'écrire le monde sur le mode d'un mécanisme soumis, d'attribuer une valeur intense à l'esprit d'entreprise, c'est-à-dire à l'initiative, à la liberté humaine, etc. Et puis en même temps de prétendre que ces deux composantes complètement contradictoires vont ensemble. Pour lui, ça n'allait pas du tout. Enfin, pour lui, c'était une vraie faiblesse de la pensée. Et je crois que c'est une bonne prise. C'est-à-dire que cette incohérence se reflète partout. Ne serait-ce que dans cette opposition entre opinion passive, je veux dire séductible, prête à accepter n'importe quoi, et qu'on peut analyser sous forme causale. Les sociologues essayent de comprendre quelle détermination sociale, culturelle mène à telle opinion, etc. Donc, et par contre, cet esprit scientifique qui est censé, lui, avoir l'initiative de poser les bonnes questions. Donc, même là, on retrouve cette incohérence. Et ça a été un de mes points de départ. Mais où ça menait, ça, c'était ce que... C'est pour ça que j'ai écrit le second livre. C'est quand, la seconde version, c'est quand je me suis rendu compte, enfin, de où ça me menait.
Avec cet amour du problématique aussi, comme...
Oui, cet amour, mais j'aime bien le problématique, parce que justement, c'est pas une attitude critique au sens où ça ôterait des dimensions à une situation qui serait jugée illégitime, etc. Ça ne cherche. Le problématique est plutôt une manière d'enrichir une situation, de l'enrichir de nouvelles dimensions qui lui permettent de s'ouvrir à d'autres possibilités de la prendre en compte. Donc, effectivement, par exemple, dans le chapitre où je m'intéresse le plus aux sciences, les problématiser, c'est justement ouvrir ouvrir cette dimension entre l'autorité des lois que les scientifiques sont fiers de trouver dans la nature et tout ce que ces lois laissent dans l'ombre et qui, pour sortir de l'ombre, n'ont pas besoin de nier ces lois, mais doivent en transformer la portée. Donc c'est quelque chose que problématiser, c'est pas critiquer, mais c'est aller plus loin et en apprendre de ce qu'on considère comme une réussite, de manière à la situer et la faire proliférer autrement, et pas en faire un point d'arrêt et un point de victoire. Donc c'est aussi résister contre l'idée que quoi que ce soit puisse avoir le dernier mot.
Une opération de soudure.
Ça, c'est une autre...
To weld.
Oui, to weld, souder. Souder le sens commun et l'imagination, puisqu'au fond, nous ne savons pas. Enfin, c'est en tout cas ce que je soutiens dans ce livre, c'est que toutes les théories du sens commun, etc., c'est pas ça que le sens commun appelle, c'est une inconnue, le sens commun. Si on le prend vraiment au sens de ce qui peut circuler entre les membres, non pas entre les humains d'ailleurs, parce que je ne crois pas qu'on puisse envisager de définir un sens commun humain en général, non, je crois que c'est plutôt relatif à ce que Whitehead appelait civilisation, donc ne pas exporter quelque chose qui peut apparaître comme relevant d'un sens commun chez nous, à d'autres civilisations, à d'autres cultures, etc. Par contre, cultiver les manières de faire sens en commun, qui est donc toujours situé, on n'a pas de recette pour les autres, mais on peut apprendre des autres. Étudier les types de dispositifs qui peuvent générer cette circulation, cette densification du sens commun, c'est aussi souder le sens commun à l'imagination. Tiens, oui, on peut penser ça. Ça, pour moi, c'est une des phrases qui m'a toujours orientée. Et très curieusement, c'est quelque chose dont j'ai appris que je pouvais la susciter justement dans les cours que j'ai donnés sur Whitehead. Beaucoup d'étudiants, qu'ils soient philosophes ou qu'ils viennent d'ailleurs, parce que c'était une audience mixte, se retrouvaient mis sur le même plan par la même surprise que certaines questions auxquelles ils avaient renoncé ou qui pour eux n'étaient pas posables, pouvaient, avec Whitehead, être posées. Et donc ça faisait sens en commun. Ça ne veut pas dire qu'il donnerait les mêmes réponses, mais ça veut dire que « ah oui, on peut penser ça » se mettait à circuler entre eux. Et pour moi, ça c'est régénérer le sens commun. Mais on voit aussi que ce n'est pas une utopie, parce que pour moi, fait partie du sens commun, comme je disais, l'intérêt très grand que beaucoup de gens peuvent porter à des histoires, se demandant à quoi sont sensibles les animaux, ou bien à quoi pourraient être sensibles des extraterrestres. Enfin, je veux dire, l'imagination qui met à l'épreuve ce que nous croyons savoir par rapport à des possibles autour, elle n'est pas élitiste, au contraire. C'est plutôt les points de vue, les perspectives et les savoirs refuse cette imagination, qui dit c'est comme ça et pas autrement, qui sont élitistes. Parce qu'à ce moment-là, ils forcent, ils demandent que tout ce que des gens peuvent penser comme oui mais, tous les oui mais que les gens pourraient opposer se taisent. Pas de oui mais. Donc c'est plutôt les savoirs sur d'eux-mêmes qui sont élitistes. Tandis que dès que du sens du possible se produit avec un savoir et autour d'un savoir, beaucoup de gens sont beaucoup plus à l'aise pour goûter ce savoir.
C'était un désir chez Whitehead, mais Il y a quelque chose de très systématique chez lui, mais aussi quelque chose de... le système comme matrice pour des applications.
Ben oui, il était, disons, matrice à un sens, disons, biologique. D'ailleurs, les deux peuvent aller de génération. mais c'est aussi un opérateur mathématique. Une matrice est faite pour transformer quelque chose en quelque chose d'autre. Donc, et matrice, du coup, se définit par ses applications, la manière dont la transformation. Et Whitehead disait que son schéma métaphysique n'avait de valeur qu'à travers ses applications, qu'à travers la manière dont il... Donc, appliqué à une situation, à une manière de penser, à un énoncé, il transformait le sens de cet énoncé. C'est-à-dire, en fait, le problématisait. Ce sont des opérateurs de problématisation, mais de problématisation, justement, qui sont conçus, et c'est le sens de cette matrice, pour ouvrir à une cohérence possible à d'autres énoncés qui semblent le contredire. Donc, bon, je parle de cette métaphysique, mais assez brièvement, j'en parle beaucoup plus longuement dans le gros bouquin que j'ai écrit sur Whitehead, qui lui s'adresse avant tout à des gens qui veulent faire un trajet philosophique. Ici, je veux ouvrir un trajet à d'autres types d'intérêts. Il reste que, comme j'écris dans ce livre, forger, c'est... Forger, regarde le forgeron. C'est une opération métallurgique et c'est peut-être ça, comment dirais-je, peut-être que ça, que ce que cette métaphysique de Whitehead peut intéresser sont, qu'ils portent ce nom ou pas, philosophes. On n'a pas besoin d'être diplômé en philosophie pour avoir le goût de ce type de pensée. Donc, peut-être que là aussi, ce qui est intéressant, c'est d'expérimenter avec ces applications aujourd'hui. Et que ce sont ces applications qui peuvent, comment dirais-je, que c'est un dispositif pour générer des applications qui puissent fabriquer du faire sens en commun. Donc, je suis assez, je ne dis pas « Comprenez Whitehead et vous deviendrez capable. » Non, c'est peut-être « Goûtez ce type d'application et vous deviendrez capable. »
Est-ce que tu rentres un petit peu quand même dans les détails techniques ? Entité actuelle, oui, société,
oui. Bien sûr, mais c'est justement pour montrer... La société, c'est déjà une application chez Whitehead. C'est déjà une application. Le vrai cœur du problème, c'est ce qu'il appelle ces occasions actuelles. Et celles-là, on ne les rencontre jamais. Société, ça fait partie des applications et ça permet justement de proposer une vision de là, ce que j'appelle des propositions ontologiques, puisque si on ne rencontre jamais une occasion actuelle, son sens, c'est de nous permettre de penser ce que nous rencontrons et ce dont ça pourrait être capable, cette rencontre. Donc, on est tout de suite dans l'application. Mais les occasions actuelles sont une force de proposition pour justement rencontrer les choses, les mondes, ses propres pensées. Enfin, tout ça sur un mode un peu imaginatif. Donc, oui. Donc, c'est des occasions actuelles que je ne parle pas trop. Qu'est-ce qu'une occasion actuelle ? On a surtout besoin de goûter la liberté qu'elle donne et le fait qu'elle complique tout. C'est-à-dire que, ben, encore une fois, fabriquer de la cohérence, c'est pas purifier en croyant qu'on va trouver de la cohérence en dessous, comme si on l'avait perdue, cette cohérence. C'est la créer. C'est-à-dire, ça demande de problématiser tout ce qui nous semble simple. Et avec les occasions actuelles, rien n'est simple.
Surtout pas la nature.
Surtout pas la nature, mais surtout pas nous-mêmes. Rien. Rien ne va de soi. C'est toujours sous le signe de « oui, et ça aurait pu être autrement ». Enfin, ça, c'est moi qui... Chacun, avec les occasions actuelles, comment dirais-je, accentue, non pas contredit, mais accentue certaines importances par rapport à d'autres. Et pour moi, l'importance de... Ça aurait pu être autrement contre le règne des causes et des explications est crucial.
Lorsqu'il dit la philosophie ne peut rien exclure, c'est pas une espèce de démocratie ontologique molle.
Oui, mais il dit en même temps, mais rien ne peut dicter à la philosophie comment ça doit être pris en compte. Donc elle ne peut pas se simplifier la vie. Elle ne veut pas dire ça, ce n'est que de l'illusion. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit accepter ce que n'importe qui appellerait illusion pour argent comptant. En fait, rien ne doit être accepté pour argent comptant, enfin, avec ses prétentions. Donc, non, ça c'est de l'humour. C'est de l'humour, c'est-à-dire... On ne se simplifiera pas la vie en faisant le tri entre ce qui est digne et ce qui n'est pas digne. Par contre, ça ne veut pas dire que la notion de digne, indigne, ne soit pas intéressante en tant que telle. Mais c'est matière à hésitation. Pour ça, j'aime beaucoup. Whitehead a vraiment été... Plus je lis William James, plus je me rends compte que Whitehead avait vraiment appris ce qu'il y a de plus vivant dans sa philosophie de William James. Et William James dit, la grande question du pragmatisme, c'est, puisque dans un pragmatisme, c'est aussi univers se faisant, hein, par rapport à l'univers tout fait. Donc chacune de nos décisions, actions, engagements, contribue à l'univers se faisant, à des connexions ou à des déconnexions. Et la manière dont nous considérons l'univers fait partie de l'univers se faisant. Il dit quelque part, se méfier, l'attitude de méfiance, je ne veux pas être dupe, qui était son grand ennemi, il a contribué à faire un univers dont il y a des raisons de se méfier. Donc c'est pas seulement des connexions, soit cognitives ou matérielles, ou tout ce qu'on veut, c'est aussi la manière de la connexion. Si je connecte sous le mode de la répugnance, c'est tel type d'univers plutôt que tel autre que je suis en train de créer. Et donc ce qu'il dit, c'est puisque chacune de nos théories, de nos idées, s'ajoute à l'univers, eh bien, la question c'est est-ce que cet ajout augmente la valeur de cet univers ou la diminue? Est-ce qu'elle est digne ou indigne? Et ça, c'est une question évidemment sans réponse, mais qui problématise tout, qui empêche qu'on dise ah oui, mais j'ai raison en oubliant toutes les conséquences qui sont celles du pluriverse se faisant. Donc, par exemple, s'adresser à quelqu'un qui pour vous-même dit une superbe connerie sur le mode du ignorant, tu es ignorant, tu n'as rien compris, etc., eh bien, on diminue la valeur de l'univers, parce qu'on diminue les chances que quelque chose était possible autre que de l'humiliation. Donc c'est à chaque pas que la question se pose. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps être aux aguets, mais savoir reconnaître l'occasion selon qu'on fait comme ça ou comme ça, on parie sur des plurivers qui vont diverger, c'est je crois le tout début et la toute fin de l'éthique, quoi. C'est que ça importe.
On pourrait être défiant par rapport à cette notion de valeur de l'univers. Il y a un passage aussi autour de dans la nature, il y a une notion de gagner sa vie
Oui, ça c'est autre chose, c'est pas l'univers. Hein. L'univers. Disons que moi, c'est les... moi je crois que la notion de valeur peut devenir dangereuse dès qu'on veut la définir ou la mesurer, c'est-à-dire la mettre au service d'un projet. Quand James ou Whitehead d'ailleurs l'emploie, ça correspond, oui, c'est une affirmation métaphysique, c'est-à-dire rien de ce qui se produit n'est sans valeur. Mais il n'y a pas de mesure des valeurs, il n'y a pas de définition des valeurs. C'est quasi un synonyme de l'être.
Nous avons besoin de comprendre comment l'unité de l'univers exige sa multiplicité. Nous avons besoin de comprendre comment l'infini exige le fini. Nous avons besoin de comprendre comment chaque existence immédiatement présente exige son passé, qui lui est antérieur, et exige son futur, facteur essentiel de sa propre existence. Nous avons aussi besoin de comprendre comment un simple état de fait refuse d'être dépouillé de sa pertinence vis-à-vis de potentialités au-delà de sa propre actualité de réalisation.
La notion de valeur n'a aucune autorité. La seule chose qui est interdite, c'est nier la valeur de quoi que ce soit. Au sens où il était bien du terme, quoi. Ce qui se produit a une valeur pour soi-même et peut avoir une valeur pour d'autres. Ou plutôt, même, où il peut avoir une valeur pour d'autres si d'autres en héritent sur ce mode-là. Mais la valeur de l'univers, c'est quelque chose que nous ne pouvons absolument ni quantifier ni définir. C'est un sujet de préoccupation. Au sens de si des choses qui auraient été possibles deviennent impossibles ainsi, eh bien, cela peut me poser le problème de est-ce que je ne suis pas en train de diminuer la valeur de l'univers. Donc c'est vraiment... C'est un peu, ça me rappelle Leibniz, d'ailleurs j'ai aimé Whitehead à travers Leibniz et aimé Leibniz à travers Whitehead. La grande question morale selon Leibniz, c'est la question « dis pourquoi ici ?» C'est-à-dire tu vas faire ceci, mais pourquoi ici tu vas le faire ? Ne donne pas de réponse générale donc, ne donne pas à tes valeurs une portée générale. Mêlée à l'épreuve du ici. Et je crois que ces histoires de valeurs chez Leibniz, c'est toujours ici. Quelles vont être les conséquences ici? Pense ici. Et non pas en termes de grandes valeurs générales qui te permettraient de te déplacer n'importe où, de dire en général ce qu'il faut faire. Donc c'est vraiment un point de problématisation. Qui est, on pourrait dire, neutre quant aux valeurs. Oui, neutre, enfin, qui met en question la manière dont on pourra, en général, justifier une action. Mais ici, c'est bien en général, ici. Donc ça crée ce moment où, quand on agit, on est toujours ici, quelque part, situé, et pas... hors sol.
Alors Leibniz, on lui indiquait aussi cette notion de visée, qui était ce mot anglais aim, qui a été traduit. Tu dis que.
Oui, non.
Une notion de but.
Visiblement, les traducteurs n'ont pas été très avertis quant à la différence qu'il y a en anglais entre aim et but, quoi. Un but, ça s'accomplit, donc ça doit déjà se représenter avant l'action, quoi. Je fais ça dans tel but et j'ai une idée de ce but. Aim, non, ce qu'on vise, comment dirais-je, prend sens dans et par la visée. Mais on vise, mais on, et chez Whitehead, au sens métaphysique du terme, c'est-à-dire qui intéresse les forgerons, comment dirais-je, la visée métaphysique de chaque occasion actuelle, c'est de devenir elle-même. C'est-à-dire aussi de prendre sa propre valeur. Mais quelle est cette valeur? C'est dans ce devenir elle-même que ça se détermine. Donc, encore un autre synonyme de tout ça, c'est elle a à se déterminer elle-même quant à ce qu'elle aura été. Parce qu'au moment où elle est déterminée, elle cesse de viser quoi que ce soit. Elle sera héritée par d'autres. Sous le signe du « c'est fait, c'est accompli ». Donc, viser, comment dirais-je, se déterminer quant à ce qu'on aura été, c'est-à-dire par rapport à ce trajet qui a permis cet accomplissement, ben c'est une manière de penser qui fait qu'on ne peut plus opposer les causes, parce qu'on vise toujours à partir de quelque chose, de quelque part, et les buts. Non, tout ça est pris dans le processus même de l'actualisation. Tout ça est indéfini, indépendamment de ce processus. Donc voilà le type de gymnastique que la métaphysique permet de faire. Et elle permet de ne pas avoir peur du terme valeur, parce que je crois que, de toute façon, c'est comme l'importance, Whitehead disait que l'importance, ceux qui disent, ceux qui se veulent neutres quant à l'importance, eh bien, ils n'auront pas dit trois phrases sans avoir dit pourquoi c'est important d'être neutre. Donc, on est sans cesse en situation de s'auto-contredire quand on veut nier le sens de l'importance de ce qu'on fait. C'est comme les valeurs. Si on veut échapper à ce mot, on risque de tomber dans des sens de la valeur encore beaucoup plus redoutables que ce qu'on voulait éviter. Non, je crois comme Whitehead que le sens de la valeur nous est à peu près aussi nous est à peu près aussi crucial que l'oxygène. Et, bon, mais ça veut dire que je suis totalement incapable de mes cellules savent en quoi l'oxygène est important. Ça ne veut pas dire qu'il faut disserter sur les valeurs. Ce n'est pas un bon objet de dissertation. Mais c'est un bon objet ontologique.
Certaines biologies contemporaines, alors
oui.
Prendre la valeur à cet égard-là ou nous permet de valoriser,
ah ben
ou redescendre sur Terre ou...
Je dirais même, ça prend de l'importance au sens... au sens où justement ça importe, c'est-à-dire ça, la valeur c'est existentiel, quoi, tandis que l'importance c'est plus social, c'est ça peut fabriquer des changements de nos idées tout à fait dispersées hors même biologie, étant donné que l'ancienneté et le caractère résistant, au fond, du trafic qu'il y a eu entre pensée de l'être vivant et pensée de la société. Il y a un trafic épouvantable, d'ailleurs, entre la biologie sélectiviste et l'économie, par exemple. C'est compétition et sélection du plus apte, tout ça. Donc tout ça fait une espèce de, je dirais là, de bon sens que les économistes et les biologistes ont en partage. Faut voir ce que ça rapporte du point de vue de toujours être meilleur que d'autres. C'est aussi la méritocratie. Enfin, c'est un milieu assez empoisonné. Et là, le fait que ça craque en biologie peut fabriquer des failles qui, non pas autorisent à faire craquer ça ailleurs, mais affaiblissent partout ailleurs et permettent à d'autres protestations de le faire craquer. Et qu'est-ce qui se passe en biologie? C'est que c'est plutôt l'interdépendance, l'impossibilité de définir ce qu'est l'intérêt d'un organisme en lui-même, parce qu'il n'est capable de faire de vivre comme il vit que grâce à d'autres, avec des autres et au risque des autres. Toute cette idée de compétition se complique beaucoup. Je cite avec plaisir un biologiste tout à fait remarquable de cette nouvelle tendance à la biologie qui dit que ce pourrait être la sélection sélectionne plutôt des relations que des individus. Elle sélectionne toutes les manières de faire ensemble ne passeront pas, ne seront pas indemnes d'une certaine sélection. Mais on ne sait pas ce qui est sélectionné. Il n'y a pas d'objet de la sélection, en tout cas. Ce n'est pas l'unité organisme ou une unité isolable qui peut définir ce qu'est une sélection. La sélection, qu'est-ce qui va tenir et qu'est-ce qui ne va pas tenir, est un objet, est empirique et pas matière à théorie, qu'elle soit économique ou biologique. Donc on est dans cet empirisme vivant du risque. Est-ce que ça tiendra? Et ça, c'est une question que... Est-ce que ça tiendra est-ce qu'on pourra transmettre ce truc? Est-ce que... etc. Ça, c'est une question pratique que je trouve intéressante. Mais donc, ça veut dire que... effectivement... il y a là une faille dans le bloc de conneries modernistes qui peut être élargi et qui peut fabriquer des alliances inattendues. Jusqu'ici, par exemple, en matière de féminisme, toute la problématique du genre était opposée à l'idée d'une biologie qui aurait sélectionné les femmes pour être ainsi ou cela. Donc la biologie était l'ennemi. Le genre n'était pas l'ami, hein, puisque la société avait aussi sélectionné ce qu'on... on pouvait juste dire la soumission des femmes ou le fait qu'elles se livrent à des activités, comment dirais-je, pas prise en compte et tout ça, ce n'est pas dans leur biologie, elles n'ont pas été sélectionnées pour ça, c'est la société qui est responsable. J'ai jamais été enthousiasmée par ça. Mais voilà, tout à coup que la biologie fabrique d'autres problèmes. Et peut-être que l'essentialisme, nous ne savons pas ce que peuvent les femmes, devient quelque chose que la biologie là, et les sociétés humaines ont en commun. Ça ne veut pas dire que l'un répond au problème de l'autre, ça veut dire que c'est une préoccupation commune, où les biologistes peuvent dire, ben oui, ça ne se passe pas seulement comme ça dans les sociétés humaines, c'est un peu partout que ça se passe comme ça. Donc, ça permet de, comment dirais-je, d'abandonner une bonne dose d'exceptionnalisme humain, sans pour autant, comment dirais-je, faire son deuil de tas de questions. Donc, même l'exceptionnalisme humain perd son caractère redoutable, parce que Il y a plutôt une culture de la transversalité. Tiens, comment ça se passe ici? C'est plutôt des tiens, comment ça se passe ici? Donc, c'est un retour à un empirisme aventureux. Empirisme parce que, c'est, comment dirais-je, l'idée ne précède pas ce qui se passe effectivement. Et c'est ce qui se passe effectivement qui est important. Aventureux parce que justement, ce qui se passe se risque. Ce n'est pas des faits qui auraient autorité, c'est des risques pris partout, avec nous, en nous et autour de nous.
Il semblerait que tu prêtes attention à ne pas dire spéculatif, comme si c'était déjà quelque chose d'un peu usé, comme, alors qu'il y a quelques années, on n'osait pas utiliser ce terme.
Oui, c'est vrai que pour moi...
C'est comme si maintenant c'était...
Pour moi, c'est devenu, le fait que le quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Donc, Kant est le grand noyeur de chien qui a condamné spéculatif comme si c'était, des idées totalement détachées de la réalité. Il vaut mieux avoir 5 € dans sa poche, et en or de préférence, quoique, que l'idée de 5 €. Ah, si j'avais 5 €. Donc... Et grâce à ça, il a envoyé aux poubelles de l'histoire de la philosophie toute philosophie spéculative. Il y a très bien moyen de reprendre le mot spéculatif au sens de, comment dirais-je, d'attention au possible qui insiste. Non pas, ça pourrait être possible au sens... hors sol, mais qu'est-ce qui insiste ici? Qu'est-ce que nous sentons qui pourrait être possible? Et effectivement, en ce sens-là, c'est en ce sens-là que Whitehead a dit « ma philosophie est spéculative ». C'est-à-dire que, effectivement, son importance, c'est d'en réactiver le sens du possible. Là où il est soit complètement gonflé par les idéalismes de la liberté souveraine, soit matraqué par la rationalité scientifique, qui elle-même, comme il le dit très bien, n'existe en fait que par ce sens du possible. Mais ça pourrait être possible, c'est quelque chose qui, habite les laboratoires. Sauf ceux de routine, effectivement. Mais les laboratoires de recherche sont habités par cette question spéculative du possible que l'on pourrait réaliser. Donc, encore une fois, nier le possible, c'est souvent arriver à se contredire soi-même. Je pense que l'idée du possible est irrationnelle, donc il pourrait être possible que les humains s'en passent. Donc, c'est le genre de terme duquel on ne peut pas se dépatouiller. Il faut simplement faire attention à la manière dont on l'emploie. Mais on ne peut pas dire importance, valeur, possible. Ce sont des termes que je voudrais que nous... Dont, au nom de la pensée, de la rationalité ou de quoi que ce soit, je voudrais que nous nous débarrassions. C'est pas des termes susceptible d'être jugé, parce que le juge va les employer.
C'est passionnant cette notion de mode d'abstraction chez Whitehead, qui ne soit pas hors sol, comme si partout il y avait de l'abstraction. Il s'agirait de faire attention au mode d'abstraction.
Bah oui.
Pour une amibe, c'est déjà vivre, c'est déjà préférer exclure.
Exactement, ça c'est très important, non seulement pour lui, et là il parle des humains, nous ne pouvons pas penser sans abstraction, mais en plus nous ne pouvons pas percevoir sans abstraction. Il est possible que nous pouvons sentir sans abstraction, mais la vue et l'ouïe sont des sens qui abstraient, qui privilégient, qui sélectionnent, qui renvoient au bruit. On apprend à écouter, etc. se sentir nauséeux, c'est peut-être pas abstrait. Mais voilà. Donc, mais en plus, effectivement, pour lui, abstraction, et ça rejoint l'idée partialité, c'est une évaluation de la complexité des choses. La physique s'intéresse à ce qui n'est ni partiel. Elle abstrait librement, mais justement sur un monde qui ne vit pas par ces abstractions risquées qui font qu'on va valoriser ceci plutôt que cela, ou ceci ainsi plutôt qu'autrement. Dès qu'il y a valorisation ainsi plutôt qu'autrement, il y a partialité et il y a abstraction. Mais il y a aussi création nouveau. Il y a risque, il y a aventure. Les molécules telles que... Enfin, les êtres de la physique tels que la physique les décrit ne courent aucun risque. Ne se risquent pas dans l'existence. Ils sont, comment dirais-je, dominés par la conformité. Mais ce n'est absolument pas un modèle ontologique, c'est plutôt un cas extrême, un cas limite. C'est là que la physique est à l'aise. Donc, tandis que nous ne pouvons même pas dire trois phrases sans valoriser, être partiel, se risquer. Donc, on est dans notre expérience un autre cas limite. Mais il ne faut pas exagérer, ni d'un côté, ni de l'autre.
Il ne faut pas exagérer, ça, c'est une phrase.
C'est une
rigolote.
Phrase de vérité. Surtout pas s'enorgueillir d'être si différent d'un atome. Il y a pas mal d'autres manières d'être qui ne sont ni susceptibles d'être décrits comme des atomes, ni susceptibles d'être décrits comme l'humain libre de ses choix.
Et chez lui, c'est drôle parce que c'est une phrase aussi qui peut résonner à la part d'une autorité autoritaire qui dirait il ne faut pas exagérer.
Non.
Sous-entendu limite aussi.
Ah oui, mais non.
Faut revenir sur terre, revenir au sol.
Toutes les phrases de Whitehead doivent être entendues sous le signe de l'humour. Donc, il ne faut pas exagérer, c'est... Oui, peut-être, mais tout de même. Hein. Tout de même pas. Mais il disait, c'est en fait un des risques de la partialité. C'est ça, la culture des modes d'abstraction. Veiller à ces modes d'abstraction, c'est... Privilégier, sélectionner, mais ne pas oublier qu'on privilégie et qu'on sélectionne, c'est-à-dire aussi cultiver la capacité de répondre à la question de Leibniz, dit pourquoi ici tu privilégies ainsi. Donc ne pas oublier les restes qui peuvent devenir extraordinairement importants dans une situation juste un peu différente.
La notion d'option véritable. Est-ce que c'est une option véritable, d'ailleurs, de redescendre sur Terre, pour prendre les mots étant donné la débâcle.
Oui, je crois que l'option véritable, c'est de se laisser habiter par ce qui arrive, ou bien employer toutes les échappatoires qu'on peut, ça regarde d'autres. La technologie nous sauvera, il est déjà trop tard, de toute façon tout va s'effondrer. Toutes les manières de se rendre insensible à ce qui arrive. Donc, alors on ne peut le faire que de manière partielle. Moi c'est vrai que j'ai une auto, j'essaye de le faire là où je peux faire une différence. Et j'attends et je suis heureuse s'il y a d'autres luttes qui me permettent un jour de me débarrasser de ma voiture parce qu'il y a de transports communs ou parce que. Donc j'attends avec appétit que le monde me permette de... toute façon, je suis un peu vieille pour ça. Mais j'attends avec appétit que d'autres luttes fabriquent des transformations du monde qui me permettent de faire mieux. Mais je ne suis pas au front de ces autres luttes. Je le fais là où je peux faire une différence. Mais j'essaye de... Comment dirais-je? De ne pas tomber dans une des quelconques attitudes qui me permettent de dire ça ne me concerne pas. Et effectivement, ça c'est ce que tu as dit, option véritable, c'est plutôt du William James, Ça veut dire que dans ce cas-là, c'est une option véritable au sens où de ne pas faire ce choix, c'est déjà faire le choix inverse, c'est-à-dire le choix de la catastrophe.
La collaboration, la sens historique, parce que j'ai entendu ça et là que tu réactivais la notion d'occupation, pas au sens des occupations d'activistes, ou au sens joyeux peut-être, mais occupation au sens de la période dite de l'occupation. Tu te sens sous occupation ?
Dans les interstices. On n'était pas tout le temps sous occupation, mais c'est une des manières de dire un peu partout. Enfin, ça a un sens très fort dans tous les endroits où, les réformes de gestion tuent les métiers, tuent l'essence de l'importance et le sens existentiel de la valeur d'un geste plutôt qu'un autre. Oui, parce que valeur, c'est plutôt existentiel, tandis qu'importance, c'est plutôt social. Sens de l'importance d'un métier et valeur du geste bien fait dans le cadre de ce métier. Donc partout, des gens désespèrent, des gens sont en burn-out, des gens sentent que les réformes pour leur emploi tuent ce qu'ils faisaient. Sens dans ce qu'ils faisaient. Donc, et là, on peut dire ils vivent l'occupation, ils vivent sous la mode des réformes de rationalisation de toutes sortes. Ils peuvent même devenir des bourreaux, le nombre de gens qui sont engagés dans des organismes d'aide aux chômeurs. Et qui se rendent compte que les consignes auxquelles ils sont eux-mêmes contrôlés quant à l'application de ces consignes, font d'eux des tortionnaires, ils s'en vont. Il n'y a pas de turnover de personnel aussi intense que dans ces trucs-là. Et ceux qui restent ont été transformés en bourreaux souvent, c'est-à-dire quoi bon. Avec toutes les rationalisations quant à la paresse des chômeurs, à leur malhonnêteté, etc. Donc, oui, on vit dans une situation où, et ça, c'est pas la catastrophe climatique, c'est l'histoire du néolibéralisme qui est notre histoire dominante par rapport auquel celle de la fin des mondes naturels. Vient en sourdine pour le moment. Donc, moi, j'ai eu la chance de vivre dans des interstices. Donc, là, et dans la mesure de ces interstices, de pouvoir échapper au pouvoir de me faire taire ou de m'empêcher de penser comme je voulais. Mais et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi la philosophie, c'était la liberté de poser les questions qu'on se sentait capable de poser et qu'on sentait pertinentes là où on était. Mais je sais que la plupart les jeunes philosophes à mon époque, ben les interstices deviennent de plus en plus étroits et de moins en moins faciles à habiter. Donc, je ne veux pas dire surtout parce que ce serait les privilégiés, mais même dans une institution comme l'université, on vit sous une occupation qui devient de plus en plus tatillonne. Donc, qui rétrécit et qui fait de plus en plus attention à ce que ceux qui donnent un mauvais exemple, comme j'ai essayé de le donner, soit de plus en plus, soit éliminé avant d'avoir pu gagner une sécurité de l'emploi, soit deviennent de plus en plus anormaux.
C'est comme si...
Donc, l'idée qu'on vit dans un monde de liberté... Non. On vit dans un monde de plus en plus dur et étouffant.
Par rapport à cette soi-disant liberté, il y a la restriction des espaces interstitiels, c'est comme si il n'y avait plus que le choix entre la grande lumière ou alors la clandestinité, pour revenir aussi à ce régime de langage. L'anonymat, la camaraderie.
La camaraderie, je crois que...
Mutique.
Enfin, quoi ?
Où on fait attention à ce qu'on dit quand même.
Non, ben,
attention aux captures technologiques aussi.
Oui, mais il ne faut pas... Je veux dire, il ne s'agit pas d'être... de devenir paranoïaque parce que... mais il s'agit d'accepter que c'est une aventure de la confiance. À qui est-ce qu'on peut faire confiance ? Comment est-ce qu'on peut faire confiance ? Etc. C'est une culture qu'il faut avoir. Et c'est peut-être le plus difficile parce que je pense ici au mouvement activiste parce que je pense que c'est très facile à empoisonner, même volontairement ou involontairement, on s'en fiche. Donc il faut vraiment apprendre une certaine pragmatique de la confiance et de ce qui empoisonne ou pas. Et c'est une des choses que je crois il est urgent d'apprendre, de léguer, enfin, les pratiques. Ce qu'on apprend dans ce domaine, c'est une des choses importantes à léguer aux générations qui viennent, comme on veut. Donc, il n'y a pas seulement des savoir-faire concrets, mais des savoir-faire ensemble et une attention à ce qui les empoisonne. Finalement, c'est quelque chose qui m'a... C'est une des choses qui m'a intéressée dans l'histoire des communs, puisque c'est ce que Elinor Ostrom a souligné, c'est que les communs qui ont survécu sont les communs où il y avait une culture, non pas de la surveillance, mais de la légitimité de faire attention à ce que les autres faisaient. C'était un savoir coutumier, on faisait respecter les coutumes. Ce qui, dans les tendances, ce que certains anarchistes diraient, ben, c'est horrible, c'est du contrôle, etc. Oui, mais c'est un contrôle pragmatique, c'est-à-dire c'est un contrôle qui est lié à on retombe sur Whitehead, comment faire endurer, endure, c'est en anglais, c'est-à-dire faire durer, mais au sens où c'est pas donné, au sens où c'est une réussite de faire durer, comment faire durer ce qu'on tente de faire ensemble. Donc, et je crois que je trouve que, moi je suis plutôt tendance anarchiste, mais anarchiste pragmatique, au sens où la question n'est pas d'affirmer le droit de chacun à faire comme bon lui semble, et personne n'a à me dire ce que j'ai à faire. Non, anarchiste au sens de réussir à durer dans quelque chose qui nous importe, sur lequel nous nous sommes mis d'accord que ceci nous importe, sans autorité qui règle, sans hiérarchie. Devenir capable de faire durer ensemble. Et ça demande, ben oui, ça demande que parfois on se mêle des affaires des autres. Si, mais au sens public du terme, si, on a l'impression que là, il y a un vrai danger d'empoisonnement.
Au sens peut-être aussi de racine qui est communicantale, et non pas les racines identitaires, mais la notion d'appartenance.
Mais... Ben oui, mais ça fait partie de l'interdépendance que les biologistes découvrent partout désormais. On est aussi au risque des autres. On fait part et grâce aux autres, mais aussi au risque des autres. Et ce risque, ben, je veux dire, il est pragmatiquement important de ne pas vivre dans un endroit où tout le monde est un ange. L'anarchisme angélique m'inquiète. Mais par contre, encore une fois, est-ce qu'en faisant attention ainsi, on ajoute de la valeur à ce que nous faisons ensemble ou on la diminue, est une question qui doit être ressassée continuellement. où commence. C'est ça une culture, c'est pouvoir poser la question. Oh ben ici, on exagère, on tombe dans le contrôle. Eh bien, c'est une question légitime, mais qui ne fait pas que celui qui la pose a gagné et que tous les autres sont coupables, ce qui arrive souvent. Mais que, oui, c'est une bonne question. Donc une question à ruminer, qui fait partie de la culture du faire sens en commun.
Il n'y a pas que la paranoïa donc des dispositifs au sens peut-être de Foucault, mais il y a ce que tu appelles des dispositifs génératifs.
Exactement.
Des agora qui permettent d'assembler des usages sur la ZAD ou sur la même chose.
Ça fait partie des dispositifs génératifs, c'est-à-dire qui effectivement rendent capables ceux qui y participent de plus qu'ils n'auraient été capables de faire sans les autres, etc. Mais c'est vrai que la génération, la générativité implique un souci de ce qui peut l'empoisonner. Et contrairement aux dispositifs normatifs ou de contrôle à la Foucault ou de discipline, ces dispositifs-là, il faut les honorer comme fragiles, précaires. Et donc voir ce qui peut faire que tout à coup les gens diront « Oh, c'est pas possible !» et ils déserteront. C'est pour ça que dans un dispositif génératif comme celui de la palabre que j'ai goûté et qui m'a impressionné, qui m'a vraiment fait penser, fait spéculer, ceux qui se réunissent s'entre-reconnaissent, c'est pas un dispositif où tout le monde peut participer. Dans les sociétés où ça se maintient, où ça importe, eh bien, ils s'entre-reconnaissent comme aînés. Mais ce n'est pas un titre hiérarchique, c'est simplement que ce sont eux qui seront capables du type de non-égoïsme, de savoir des choses sans penser que tout le monde doit penser comme eux, qu'il faut qu'ils soient susceptibles de participer à une palabre. Donc c'est quasi... C'est technique, la notion d'aîné, pour moi.
C'est partie de l'art de se présenter aussi.
Oui, de l'art. Ouais,
dans on revient à la notion de civilisation.
De l'art de présenter ce qu'on sait. Et c'est vrai que les jeunes impétueux peuvent ne pas avoir acquis le type d'expérience, le type d'épaisseur qui fait qu'on sait comment présenter ce qu'on, qui on est. Enfin, ce qu'on sait. Donc, c'est... Mais j'ai connu des jeunes qui étaient déjà des sages. C'est vraiment une question de... C'est vraiment une question d'éthos. Mais donc, tout ça, c'est des problèmes pragmatiques et pas moraux. Ne pas être capable d'être aîné... chez les Iroquois, que j'admire beaucoup dans tout ce qu'on en dit. Pour les questions de vie ou de mort, pour certaines questions, les guerriers dominaient. Les guerriers ne sont pas des aînés. Les vrais aînés, c'était les femmes qui décidaient de questions où il y allait de la vie ou de la mort de la communauté. Donc, il y avait une espèce de différenciation pratique sur quelles sont les forces et quels sont les dangers de chacun. Ben voilà, donc j'ai l'impression que c'est une des grosses différences du dispositif génératif par rapport au dispositif qu'on a appris à critiquer avec Foucault ou à voir, c'est que leur valeur, c'est aussi leur précarité. Leur importance, c'est aussi leur précarité. Donc, ils doivent être protégés. Protégés par des gardes extérieurs, mais leur capacité à se maintenir doit être un objet de préoccupation. Et ça, je crois que c'est... Ça s'apprend, mais c'est peut-être, de la part des activistes, la chose la plus difficile. C'est très difficile de comment dirais-je, de ne pas juger, mais de dire non, ici ça va pas. Personne ne s'en donne le droit. Ben, c'est ça, je crois, c'est quelque chose qui pour le moment est un problème. C'est pour ça que je le dis, c'est parce que c'est un problème que je lègue. Mais j'aimerais rendre ce problème. Contribuer, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul, mais contribuer à rendre ce problème un bon problème, et pas un problème honteux qui parfois se termine par l'explosion d'un groupe, quoi. Parce que personne n'a osé tirer la sonnette d'alarme et dire attention, ici ça va pas. Faire sens en commun, c'est un art. Et ça, c'est très important parce que si c'est un art, ça doit être créé et entretenu. Et on n'est pas capable de cet art par le seul fait qu'on s'est débarrassé de ce contre quoi on lutte. C'est aussi ce que les activistes américains appellent reclaim. Ben, peut-être que quand on lutte contre la séparation, et qu'on ne se rend pas compte qu'on a été mutilé par la séparation, c'est-à-dire que guérir de ce que ça nous a fait n'est pas aussi à l'ordre du jour, c'est une grosse faiblesse, quoi. Dire non ne suffit pas. Il faut aussi devenir capable des arts de l'indépendance contre les revendications de l'individu, aussi noble qu'elle soit.
Et attachement ne veut pas dire dépendance forcément. Quand on dit, nous sommes la nature qui se défend. Là, tout à coup, la nature, tu l'acceptes, ça sert, ça, tu acceptes la nature, tu acceptes la notion de nature, elle n'est pas trop totalisante. Quand on dit nous ne défendons pas la nature, mais nous sommes la nature.
Non, pour moi, c'est au contraire, hein, de ces énoncés. Ce qui fait très plaisir, c'est que, par exemple, Bruno Latour, qui s'est quasi engagé à ne pas employer le mot nature, voilà qu'il cite avec louange cette phrase-là. Donc, hop, c'est un effet de la transversalité au sens. On sent que le sens même du mot nature a changé. Et que tout à coup, cet énoncé-là fabrique, impose, propose un nouveau sens qui lui est intéressant. Et effectivement, ça veut dire que ce qui met en danger ce qu'on appellera nature, c'est-à-dire toutes les monocultures, les pollutions, les productions de clones, l'extractivisme, enfin tout ce qu'on veut, eh bien, en tant qu'humain, en tant que société humaine, nous le subissons aussi. Donc, en ce sens-là, oui, nous faisons partie de la nature, et quand nous défendons notre capacité de vivre ensemble, de faire sens ensemble, etc., nous défendons quelque chose qui est un comment dirais-je, quelque chose de transversal entre qui fait que nous appartenons à la nature. C'est le même type de ravage, et on revient à Guattari, aux trois ravages écologiques. On subit dans nos productions collectives de subjectivité, comme disait Guattari, les productions individuelles de mentalité et la nature, des ravages qui sont cousins, ce n'est pas identique, on ne ravage pas de la même manière, mais ils sont en relation de cousinage profond. Donc voilà, donc quand on dit ça, effectivement, on dit aussi, comment dirais-je, nous devons nous défendre au même titre que nous devons défendre la nature, parce que nous subissons le même ravage. En tout cas, des ravages cousins. Avec chaque fois des moyens différents, mais l'interdépendance dans tous les cas est ce qui est ravagé. Donc pour moi, l'individu naît dans un champ de ravage. Guattari n'aurait peut-être pas dit ça, mais...
Ça change relativement tout de commencer par le ravage plutôt que...
Ah, pour moi, ça a changé énormément. Quand j'ai lu ce livre, je ne dis pas que ça a été une découverte au sens, mais ça a été l'effet explicité, donner un exemple de ce qui devenait possible si on partait de cette notion de ravage. Simplement, je crois que j'ai fait remonter un peu plus loin que lui. J'ai fait remonter plutôt aux enclosures, tandis que lui, la différence entre lui et moi, c'est qu'il était à son époque, mais il était d'une autre époque, préoccupé par la menace des archaïsmes, donc des reterritorialisations artificielles, etc. Moi, je crois que avec ça, on peut faire. Par contre, avec l'individualisme, enfin, la manière dont a été produit de l'individualité, c'est une question de vie ou de mort.
Sur la vie et la mort.
Mon amour, mon amour.